Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Banque Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Banque vous accompagne. Sounou Banque, avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Celles et ceux qui souffrent de migraines utilisent souvent des images pour décrire l'intensité de leur douleur. Le cœur qui bat aux tempes, la tête prise dans un étau, des sensations diverses, d'une forte intensité, un inconfort oppressant, insupportable qui différencie cette maladie neurologique d'autres céphalées. Et paradoxe, si la migraine est passée dans le langage courant, si son nom est connu par beaucoup, eh bien de nombreux migraineux ne traitent pas leur crise correctement car ils sont encore nombreux effectivement à recourir à l'automédication. Cette maladie concerne pourtant plus d'un adulte sur 10, près de 2 sur 10, avec des facteurs déclenchants, parfois des signes avant-coureurs, des situations caractéristiques qui favorisent donc le déclenchement des crises et qu'il est important d'identifier lorsque l'on souhaite limiter la survenue de ces épisodes douloureux comme la durée des crises, prise en charge qui peut être double, soulager les phases aiguës, mais aussi un traitement de fond ou le recours à des soins de support pour limiter l'impact de cette maladie qui peut altérer très fortement la qualité de vie de celles et de ceux qui en souffrent. Et quand on parle de migraine, eh bien, le féminin devrait l'emporter sur le masculin, car les femmes sont 3 fois plus concernées que les hommes. Vos questions, vos témoignages sur la migraine, nous les attendons sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33 84 22 75 75 pour y répondre avec nous en studio. Docteur Vincent Roubaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris et nous allons retrouver tout à l'heure en direct du Cameroun le docteur Benjamin Tchaleux, neurologue à l'hôpital général de Douala.
Priorité santé sur RFI.
Nos invités, toutes vos questions, ce sera dans quelques minutes, mais tout de suite, nous allons rejoindre le professeur Christophe Rapp. Christophe Rapp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital américain de Paris. Professeur Rapp, nous allons parler avec vous de l'épidémie mondiale de coronavirus. Covid-19, derniers chiffres, dernières informations. Bien sûr, les consignes les plus récentes en termes de prévention. Cette crise sanitaire inédite, aux conséquences multiples, on en parle chaque heure dans les journaux de RFI, conséquences majeures qui dépassent d'ailleurs largement le strict cadre médical. Les dirigeants européens tiennent aujourd'hui une visioconférence pour coordonner leur action face à l'épidémie. C'est désormais l'ensemble de l'Italie qui est confinée. Plus de 110 000 cas dans le monde, 4 000 décès au moins, 1412 cas pour la France qui a confirmé 25 décès. La France, deuxième pays européen le plus touché derrière l'Italie. Professeur Rapp, dimanche soir, le ministre français de la Santé a annoncé de nouvelles restrictions pour les rassemblements populaires, limitées désormais à 1 millier de personnes. Alors, éviter de se retrouver dans un espace confiné, ça fait partie des premières mesures pour essayer de limiter la transmission.
Alors oui, bien entendu, dans les épidémies à transmission respiratoire, la limitation des contacts entre les individus est un système validé pour freiner l'évolution de l'épidémie. Et c'est la stratégie actuelle.
La stratégie actuelle, on rappelle d'ailleurs les autres mesures barrières essentielles, professeur Rapp.
Alors en fait, des mesures individuelles ont un intérêt collectif, c'est des choses très simples, c'est le lavage des mains, c'est le tousser dans son coude, se moucher avec des mouchoirs à usage unique, éviter les contacts avec les personnes fragiles. Voilà. Si tout le monde applique ces mesures barrières, il y a un enjeu collectif très important.
Ce qu'il faut bien faire comprendre aux gens, c'est vrai qu'on attend de la part des autorités de santé, des médecins et même des gouvernants des décisions. On attend en quelque sorte une protection, mais il y a aussi le civisme, l'attitude individuelle qui est absolument essentielle.
Oui, tout à fait. Dans une épidémie de ce type-là, il y a un volet structure de santé, préparation des soins, et puis il y a un volet sociétal avec l'enjeu collectif d'appliquer les recommandations, ce qui a été d'ailleurs fait en Chine avec un confinement majeur, et on voit qu'en Chine, l'épidémie marque le pas.
Professeur Christophe Frappe, vous êtes également président de la Société française de médecine des voyages. Un certain nombre de pays ont introduit des contrôles sanitaires aux frontières. Qu'est-ce que l'on sait de l'efficacité de ce type de mesure ?
Alors, on sait que les contrôles aux frontières sont inefficaces puisque la température est pas présente à tout moment dans la maladie. On sait que avec les vols aériens, les frontières ne sont pas étanches. Donc ce sont des mesures qui sont politiques, un peu symboliques, mais inefficaces parce que le virus n'a pas de frontières.
Davantage de la communication que de l'efficacité sanitaire. Alors 60 millions d'Italiens en revanche confinés, priés de rester chez eux, mesure de confinement national, hein, c'est une première, puisque même pour le cas de la Chine, il y avait 50 millions d'habitants de la province du Hubei, épicentre de l'épidémie, confinés, mais simplement une partie de la population. Professeur Christophe Frappe, l'OMS dit ces dernières heures que la Chine, vous l'avez souligné vous-même, est en train de maîtriser l'épidémie, mais que la menace de pandémie est bien réelle. Ça veut dire que dans certaines zones, eh bien, ça freine, hein, c'est très très loin d'être résolu, ça freine simplement, mais dans d'autres, on est toujours dans l'expansion.
Oui, tout à fait, hein. Les chiffres le montrent quotidiennement, il y a vraiment maintenant une montée des cas dans le monde entier lié à la diffusion du virus. Et puis la situation italienne est très particulière parce qu'il y a eu beaucoup de cas. Et là, ils essayent réellement de freiner parce qu'ils sont en saturation du système de santé. Donc là, ils font une mesure, ils mettent en place une mesure particulière, tout à fait exceptionnelle.
Saturation du système de santé qui peut avoir un effet sur la mortalité, la morbidité de la maladie, parce que dans les services de réanimation, quand on n'a plus les dispositifs suffisants, on peut être dépassé.
Tout à fait, c'est vraiment ce qu'il faut anticiper, c'est les capacités en réanimation pour traiter les formes graves. Concernant l'Italie, on a quelques interrogations. Ils ont un chiffre de mortalité très supérieur à tout ce qui a été décrit dans les autres pays, et notamment à la France.
On est presque à 5% pour l'Italie, c'est absolument ça, voilà, énorme. Voilà. On est en dessous de 1 en France, voilà. Et on est à 5 en Italie.
Tout à fait. Alors, ils ont sans doute, la réponse est sans doute qu'ils ont beaucoup plus de cas qui n'ont pas été dépistés, et peut-être que finalement la létalité est proche de la nôtre, mais pour l'instant, il y a quelques interrogations.
Dernier point, professeur Christophe Frappe, sur la dimension psychologique, cette fois, l'afflux d'informations, pour ne pas dire le matraquage, c'est particulièrement anxiogène, hein, ça touche tout le monde, les personnes âgées, les enfants, on en parle dans les cours de récréation. Comment est-ce qu'on continue à rester vigilant, sans décourager, sans faire paniquer la population ? Est-ce que les médecins, l'infectiologue que vous êtes, prennent aussi cette dimension en compte?
Oui, bien entendu, hein, ce souci de transparence et puis cette communication en temps réel avec les médias modernes est un vrai sujet, parce qu'il faut trouver un juste équilibre entre des informations qui sont mêlées d'incertitudes scientifiques liées à l'épidémie et les principes de réassurance à la population. Et on voit que c'est très difficile de jour en jour.
Et on le dit à nos auditeurs, hein, ce n'est pas parce qu'il y a une incertitude qu'il faut aller chercher une solution simple ou une réponse facile sur Internet, parce que c'est aussi l'occasion, professeur Christophe Frappe, de revenir en force les thèses complotistes ou les réponses avec les médicaments pseudo-miracles. Tout cela, il faut vraiment se préserver également de la méfiance de l'autre, de celui qui vient de l'étranger, parce que dans tous les cas, c'est très très mauvais quand on veut lutter efficacement contre une maladie.
Tout à fait. Alors là, vraiment, c'est la lutte contre l'infectiose est une priorité. D'ailleurs, en France, le gouvernement a travaillé avec Google, Facebook, etc. pour référencer les documents officiels. Quand vous tapez sur Google, vous tombez directement sur les pages d'accueil des sites de l'État qui donnent des infos tout à fait validées. Ça, c'est très important.
Et tout à fait sérieuse. Merci beaucoup, professeur Christophe Frappe, d'avoir répondu aux questions de priorité santé. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'hôpital américain de Paris. Et on aborde à présent notre sujet du jour dans Priorité Santé, la migraine. Un certain nombre, là encore, d'idées reçues, on n'est pas dans les fake news, mais en tout cas, d'idées reçues à déconstruire. Je le disais tout à l'heure, docteur Vincent Roubaud, presque tout le monde connaît le terme de migraine, sans pour savoir pour autant comment elle se traite. Pour commencer, quelle céphalée s'apparente effectivement à une migraine ? C'est quoi la différence entre un mal de tête et une vraie migraine ?
C'est une question très importante et pour laquelle on a une réponse précise, puisque pour définir une un mal de tête, une céphalée, on cède par rapport à des caractéristiques. Et donc une migraine est définie par un mal de tête qui s'installe progressivement, qui peut durer 4 à 72 heures, donc ça peut être long, jusqu'à 3 jours, qui est le plus souvent d'un côté, donc on dit unilatéral, qui bat comme une artère, donc l'image du cœur qui bat dans la tête est une bonne image, qui est souvent aggravée par l'effort, qui peut s'accompagner de nausées, de vomissements, une sensibilité au bruit, à la lumière, et qui a une intensité qui peut être sévère. On la définit aussi de par sa fréquence, puisqu'elle touche 15% de la population, de par le terrain, puisqu'on sait que la femme est plus touchée que l'homme, 3 femmes pour un homme avant l'âge généralement de 40 ans, souvent précédée de symptômes prémonitoires à type de bâillement, de somnolence, de douleur abdominale, de faim.
Alors, est-ce que vous pouvez, vous êtes neurologue, est-ce que vous pouvez décrire ce qui se passe dans la tête d'un migraineux, d'une migraineuse, hein, on l'a compris, elles sont plus nombreuses, quand la crise se déclenche, qu'est-ce qui se passe là-dedans?
Alors, ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire les mécanismes qui sous-tendent l'apparition de la douleur, sont incomplètement compris. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une prédisposition cérébrale à générer de façon spontanée ou provoquée des maux de tête, que cette prédisposition elle est liée à un terrain génétique favorisant, notamment dans la modulation des centres de la douleur au niveau cérébral, qui sont des structures profondes, l'hypothalamus, le tronc cérébral. Et on sait aussi que cette activation va entraîner une dilatation au niveau de certains vaisseaux cérébraux qui génèrent eux-mêmes la douleur.
Alors pourquoi les femmes sont tellement plus concernées que les hommes ?
Il y a probablement un rôle hormonal, c'est ce que l'on sait à l'heure actuelle, de telle sorte que le plus souvent, la migraine a tendance, dans son intensité et sa fréquence, à diminuer avec la ménopause et avec l'âge.
Puisqu'il y a même des crises de migraine, docteur Roubaud, qui sont directement associées au cycle menstruel.
Oui, tout à fait, ce qu'on appelle les crises cataméniales, pour faire savant. Mais ce sont ces migraines qui surviennent exclusivement autour de la période menstruelle, à savoir 2 jours avant et pendant 3 jours après, que l'on peut prendre en charge simplement en supplémentant les variations de certaines hormones, notamment
alors,
les œstrogènes.
Pour certaines maladies, il faut qu'il y ait plusieurs symptômes identifiés, un certain nombre de critères pour qu'on dise, voilà, c'est telle ou telle pathologie. Est-ce que c'est la même chose pour la migraine? Est-ce qu'il faut qu'il y ait conjonction de symptômes, les mêmes signes en même temps, ou un seul de ces signes? Par exemple, vous disiez tout à l'heure, ces battements d'un des deux côtés du crâne, ça suffit?
Alors, effectivement, pour définir une migraine, il faut qu'il y ait plus de 5 accès et puis après, il faut qu'il y ait certaines caractéristiques. Une obligatoire, la durée qui doit durer 4 à 72 heures. 2 des critères suivants, le caractère pulsatile, le caractère unilatéral, le caractère aggravé par l'effort, le caractère avec intensité sévère à modérée et 1 des 2 critères qui est l'aggravation par le bruit, la lumière et l'association de nausées et vomissements. Et toujours le même critère à la fin, non expliqué par une autre cause.
Docteur Roubaud, est-ce qu'on considère la migraine comme une maladie chronique ?
Oui.
C'est une maladie
chronique. C'est une maladie chronique et une des plus fréquentes que l'on rencontre en neurologie.
Alors, vous parliez tout à l'heure de la dimension héréditaire. On sait pourquoi certaines familles sont plus ou moins migraineuses. Est-ce qu'on a là aussi des explications ?
On n'a pas d'explication claire sur une transmission directe d'un gène responsable d'une maladie migraineuse, si ce n'est dans des cas très très rares appelés migraines hémiplégiques, où les gens peuvent avoir, de façon accompagnée à leur migraine, un déficit moteur de toute une partie du corps. On dit que c'est un brassage de gènes qui peut être retrouvé assez fréquemment puisque ça concerne 20% de la population.
Et sur la durée des crises, est-ce qu'il y a un moyen de le contrôler? Est-ce que les personnes qui font des crises longues referont des crises longues ou est-ce que ça va dépendre des jours, ça va dépendre des facteurs déclenchants?
Alors au sein d'une même, enfin sur un même individu, c'est très variable. Pour diminuer l'intensité et la durée de l'accès douloureux, on a recours à des traitements efficaces.
Alors, quand on parle de migraine, on entend souvent parler d'automédication. Hein, ouais. C'est l'alerte un petit peu associée, dire ce qu'il ne faut pas faire, docteur Vincent Roubaud. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui, les personnes qui viennent vous voir en consultation, souvent, elles ont fait d'abord un petit peu leur petite chimie à la maison?
C'est tout à fait ça. Peut-être rappeler certains chiffres qui sont extrêmement intéressants. Une étude française sur la migraine qu'on appelle Framig 3, qui date de 2004, qui a intéressé un grand groupe de populations migraineuses et qui a montré deux choses intéressantes. La première, c'est que on sait que 20% seulement des patients migraineux consultent spécifiquement pour cette raison, ce qui veut dire que le reste, soit a déjà consulté mais arrêté, soit n'a jamais consulté. Ceux qui ont arrêté, c'est par fatalisme en se disant « c'est comme ça, je suis migraineux, dans ma famille on est migraineux, ça a toujours été le cas, il n'y a pas de traitement efficace », soit c'est par méconnaissance. Ça, là, c'est un autre chiffre intéressant. Dans la population de patients souffrant de migraine, seulement 40% savent qu'ils le sont. Donc le reste va prendre, ou les migraineux aussi, vont prendre des traitements qui ne sont pas forcément adaptés, avec un risque qui est très important. On sait que plus on prend des traitements non adaptés et plus on risque de pérenniser les maux de tête et de passer dans ce qu'on appelle des céphalées chroniques quotidiennes, c'est-à-dire des maux de tête qui sont pas du tout efficaces au même traitement et qui se pérennisent avec le temps et qui ont un impact fonctionnel ou un retentissement.
Pourquoi sur... Parce qu'on devient résistant aux antidouleurs?
Exactement, et puis surtout on va moduler son système de sensibilité à la douleur au niveau cérébral et puis on va surtout rendre ce qu'on appelle la sensitivation, on va rendre, si vous voulez, le système de la douleur va se mettre à décharger tout seul sans stimulus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va auto-générer des maux de tête de façon spontanée et répétée.
Vous disiez tout à l'heure maladie chronique. Alors, est-ce que ça veut dire que systématiquement, on va avoir un traitement des phases aiguës, on va dire des crises, hein, pour être parlé simplement, et puis d'un traitement au long cours, comme ça se fait, par exemple, quand on prend en charge des allergies?
Alors, c'est vrai pour le traitement de crise. Il doit être proposé à tous les patients, avec plusieurs types de traitements spécifiques ou non spécifiques. Et puis, les traitements de fond, ils sont plus proposés aux patients, chez qui soit la fréquence des migraines est importante, on estime supérieure à 2 par mois, mais après c'est vraiment une réflexion individuelle, notamment sur l'impact que peut avoir cette migraine chez un patient. C'est vrai que quelqu'un qui a une migraine qui dure 4 heures, c'est différent de quelqu'un qui a une migraine qui dure 3 jours, et surtout son retentissement, quelqu'un qui a une migraine qui l'empêche d'aller travailler pendant 3 jours, c'est différent de quelqu'un qui a une migraine qui dure 4 heures et qui peut aller travailler. Et aussi, on raisonne en fonction de la résistance au traitement de crise. C'est-à-dire que des patients vont avoir des traitements de crise qui sont inefficaces, malgré l'arsenal thérapeutique très large qu'on a à l'heure actuelle, et donc on va leur proposer un traitement de fond qui aura pour mission de diminuer la fréquence et l'intensité des accès douloureux.
Et il peut y avoir certaines maladies, y compris des maladies d'origine psychique, qui sont fortement associées aux migraines.
Alors, oui. C'est vrai que dans les facteurs déclenchants, tout a été un petit peu décrit. On sait que les facteurs psychologiques, le stress, la contrariété, la forte émotivité peut plus facilement déclencher une migraine. Et on sait aussi que dans le passage à une forme plus chronique de migraine, alors là encore, c'est une définition, je suis désolé, mais médicale, c'est-à-dire plus de 15 maux de tête par mois pendant plus de 3 mois, ce qu'on appelle la céphalée chronique quotidienne, il y a une forte implication psychologique. C'est-à-dire que les gens qui sont soit tristes, donc dépressifs, soit qui ont une personnalité plus particulières sont plus à risque de développer ce genre
mais
de symptômes.
Mais c'est quoi, c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que ça va être la dépression ou le mal-être qui va engendrer la migraine, ou c'est cette migraine qui va... C'est quand même intéressant de savoir qui provoque quoi.
Ouais. Alors dans la céphalée chronique quotidienne, on sait qu'il y a un terrain plus facilement favorisant, notamment sur le plan de la personnalité et des troubles de l'humeur. Néanmoins, la migraine peut devenir chronique si justement, comme vous faisiez référence tout à l'heure, il y a une automédication qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire si on prend trop de traitements, on a plus à risque de développer une migraine chronique. Et si jamais on prenait certains types de traitements, notamment on sait que les opiacés et la caféine sont plutôt contre-indiqués.
Alors on va tout de suite donner la parole aux auditeurs et aux auditrices. On va voir justement avec elles et avec eux leurs habitudes.
Priorité santé. Allô?
Allô, Adiatou, en Guinée, à Conakry. Allô, Adiatou, et bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, on va vous écouter tout de suite. Vous allez nous décrire vos migraines et le docteur Roubaud pourra répondre à toutes vos questions. Allez-y.
Ok, depuis 2001, j'ai des migraines qui sont vraiment très douloureuses pour moi. Et au début, je sens ma vision qui est un peu floue. 30 minutes après, maintenant, c'est les douleurs qui viennent. Du coup, des fois, j'ai même des problèmes avec la lecture. J'avais fait une année sans aller à l'école. Je ne peux pas lire plus de 15 minutes. J'ai consulté beaucoup de médecins. Je suis partie en ORL. J'ai vu un neurologue, même un ophtalmo. Mais quand ça commence, ça fait au moins plus de 10 ans maintenant, parce que c'est depuis 2001.
Adiatou, le mot migraine a été dit, on vous a donc diagnostiqué cette migraine.
Oui, et selon mes signes, beaucoup de médecins m'ont dit que c'est la sinusite chronique.
Alors, deux diagnostics différents, un qui serait donc plutôt en ORL, l'autre en neurologie. Pour vos céphalées, pour vos maux de tête, on vous a donné quoi comme médicament?
Des antidouleurs, des gouttes nasales, et il y a certains aliments aussi que je ne peux pas consommer. Dès que je consomme, j'ai les céphalées.
Donc vous avez arrêté de consommer certains aliments?
Oui.
Et les antidouleurs, ils fonctionnaient? C'était quel type d'antidouleur?
Des fois, ça fonctionne. Autant de fois que je prends, ça se calme. Mais une fois que j'arrête, ça reprend aussi.
Mais c'est du paracétamol ou c'est quelque chose de plus fort?
Du paracétamol, oui. Du paracétamol, du doliprane.
Mm-hmm. Alors, je donne maintenant la parole au médecin, docteur Vincent Roubaud. Adiatou nous a décrit sa situation avec, on va dire, peut-être un double diagnostic. En tout cas, elle a vu plusieurs médecins, elle a vu plusieurs spécialités parce qu'il y avait plusieurs symptômes. Ça touchait ses yeux, ça touchait son nez et puis surtout ses terribles maux de tête. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. Merci. Du coup, je le répète. La migraine est une maladie cérébrale, c'est-à-dire que de fait de ces critères, on exclut d'emblée la possibilité d'une pathologie ORL, c'est-à-dire d'une sinusite chronique par exemple, d'une pathologie ophtalmologique, un trouble de la réfraction ou un problème de vision. Donc c'est une maladie qui est neurologique, c'est le cerveau qui est touché. Donc on a éliminé les autres diagnostics et de par les critères définis tout à l'heure, on peut s'affranchir de cela. Ce qui a été aussi décrit, c'est que certains... prodrome, certaines situations peuvent déclencher le mal de tête, et ça c'est quelque chose d'important dans le traitement, puisque les patients vont connaître ce qui peut favoriser la survenue d'un mal de tête, et donc l'éviter. C'est vrai que les aliments, c'est souvent décrit, notamment l'alimentation grasse, ou certains types plus précis d'aliments. Sur les symptômes présentés par Adiatou, les phénomènes visuels qu'elle présente, c'est ce qu'on appelle les auras visuelles, c'est-à-dire ce sont des symptômes neurologiques qui surviennent avant ou pendant le mal de tête, qui répondent aussi à des critères, mais en gros, le plus souvent, 9 fois sur 10, c'est visuel. Donc, il y a soit des signes positifs, ça peut être quelque chose de scintillant, ça peut être quelque chose, l'impression de voir au travers d'une vitre un peu embuée, ou alors quelque chose dit de négatif, c'est-à-dire un trou dans le champ visuel. C'est quelque chose d'extrêmement progressif, qui dure plus de 5 minutes, mais moins d'une heure, et qui s'étend progressivement avec le temps, pour laisser place au mal de tête s'il ne l'accompagne pas. Et on sait que 25% des patients migraineux vont avoir à un moment donné un symptôme, une aura, et le plus souvent donc visuel. Maintenant, par rapport au traitement, il y a deux types de traitements, les traitements de crise, les traitements de fond. Pour le traitement de crise que vous mentionnez, il y a des traitements dits non spécifiques, c'est-à-dire qui ne sont pas spécifiques à la migraine. Le paracétamol en fait partie, bien qu'on le sache, qui ne soit pas forcément efficace et qu'il est plus à risque de développer des céphalées chroniques par la suite. Par contre, les anti-inflammatoires sont des molécules de première intention à mettre en place, car on sait qu'ils sont efficaces.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ça va être
Les deux qu'on l'a même en France, en tout cas, c'est l'ibuprofène et le kétoprofène.
D'accord.
Sans citer de marque, voilà.
L'ibuprofène, mais qui est déconseillé en cas de grossesse, par
exactement.
Contre.
Après la 24e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire après la fin du 5e mois, on ne peut plus le prescrire. Et puis, il y a des traitements qui sont plus spécifiques, qui vont agir sur certaines molécules qui entraînent la dilatation, notamment, et l'inflammation au niveau des vaisseaux responsables de la douleur, qu'on appelle les triptans, et qui sont extrêmement efficaces. Ces deux traitements-là...
Qui ne sont pas forcément accessibles partout, par contre.
Qui ne sont pas forcément accessibles partout et qui ont chacun des contre-indications. Donc, vraiment, doivent être prescrits par un médecin et simplement aussi, le traitement, il est d'autant plus efficace qu'il est pris en début de crise.
C'est ça. Donc, Adiatou, repérez vraiment les signes que vous avez décrits. Est-ce que vous avez déjà essayé de l'ibuprofène?
Oui, j'ai essayé de l'ibuprofène.
En début de crise?
Beaucoup de traitements. Oui, en début de crise.
Et vous diriez que rien ne marche ou il y a quand même des choses qui vous soulagent?
Avant, ça marchait, mais maintenant, là, même si je prends des anti-inflammatoires, ça ne marche pas. J'ai 72 heures de douleur et j'oublie beaucoup, beaucoup. Je n'ose pas le soleil, la poussière. Et dès que je me stresse aussi, et quand il y a trop de bruit, j'ai des douleurs.
Ça vous empêche vraiment beaucoup d'activités du quotidien?
Beaucoup d'activités du quotidien. Je ne peux pas faire une lecture de 15 minutes.
Très
invalidant. Et j'ai des douleurs, oui, au moins le minimum c'est 72 heures.
Et donc quand on est dans cette situation-là, comme vous le décrivez bien, on a tendance, si les traitements de crise ne marchent pas et qu'on n'a pas accès à d'autres traitements de crise type triptan, à mettre en place un traitement de fond. C'est quelque chose qui vous avait déjà été proposé, un traitement qu'on prend tous les jours sur une période d'au moins 3 mois.
Adiatou, est-ce qu'il y a un neurologue qui vous a proposé de prendre des médicaments tous les jours?
Oui, j'ai essayé ça aussi, des médicaments de tous les jours, j'ai suivi ça au moins 6 mois. J'ai même eu des injections au niveau du cou. On m'a injecté au niveau du cou pendant 1 mois.
D'accord.
Et est-ce que ça a marché ou pas du tout?
Autant que je suis, le traitement, ça marche pour le moment, mais dès que j'arrête, ça reprend.
Mais ça veut dire que c'est un traitement qu'il faut continuer à suivre. Par contre, peut-être qu'il y a un problème financier. Ça coûte cher ce traitement, est-ce que vous arrivez à le financer?
Oui, ça coûte cher. Des fois, oui, j'arrive à le financer.
Et quand vous avez arrêté, ça veut dire que vous ne pouviez plus payer ou c'est parce que vous en aviez marre de le prendre?
C'est pas par faute de financement, c'est parce que j'ai trop pris de produits. Du coup, j'ai décidé d'arrêter un peu, voir si ça va se calmer. J'ai même essayé la pharmacopée.
Oui, la pharmacopée. Mais le problème, c'est que si c'est un traitement de fond et que vous l'arrêtez, eh bien, les crises vont revenir. Hein. Je pense que c'est ce que vous allez nous confirmer, docteur.
Oui, tout à fait. Donc, pour rebondir sur le traitement de fond, donc son but est de diminuer l'intensité du mal de tête quand on en a un, de diminuer la fréquence et indirectement d'améliorer la qualité de vie et le retentissement péjoratif que ça peut avoir sur la vie de tous les jours. Là encore, il y a plusieurs traitements qui sont des traitements pas forcément spécifiques et accessibles, à savoir des bêta-bloquants. On peut mettre aussi certaines formes d'antidépresseurs. Plus récemment, des nouveaux traitements qui ont été développés. Ce que vous décrivez aussi, c'est-à-dire la toxine botulique, ça n'a pas été dans les études confirmé sur certains types de migraines. Par contre, dans les migraines chroniques, c'est-à-dire quand on a plus de plusieurs maux de tête par mois pendant plusieurs mois, on peut effectivement cibler certains points qui vont permettre de décontracter les muscles et indirectement d'éviter la survenue de maux de tête.
Voilà, Diatou, pour cette réponse. On vous souhaite bon courage, hein, bonne journée à Conakry. On reste à Conakry avec Bintou qui est en ligne avec nous, toujours la Guinée. Bonjour Bintou.
Bonjour Caroline.
On est à votre écoute, allez-y, le docteur Roubaud vous écoute, allez-y.
Bonjour docteur.
Bonjour.
D'accord, je suis Bintou Kouraté, depuis Conakry. Moi, mon problème est que j'ai des crises de migraine très fréquentes en période de chaleur. Donc du coup, quand il fait très chaud ou quand je suis beaucoup en contact avec la poussière, je dirais que ça me déclenche ma crise de migraine. Donc moi, ma première question est de savoir la raison principale qui cause cela. Et par la suite, savoir si ma crise de migraine m'arrive, quel conseil vous me donnez en tant que spécialiste et ce que je dois faire. Et aussi, quelles sont les recommandations pour l'éviter?
D'accord, la prévention, mais surtout d'abord comprendre le lien entre cette chaleur et le déclenchement de la crise.
Donc, encore une fois, hein, c'est... faut être certain avant de parler de migraine que les maux de tête que vous avez correspondent aux critères qu'on a définis tout à l'heure. Si tel est le cas, on sait que les facteurs qui déclenchent le mal de tête sont très nombreux et ont été décrits des facteurs dits climatiques, les modifications de pression, le froid, parfois le chaud, l'altitude, enfin tout est vraiment décrit. Donc chez vous, apparemment, la chaleur déclenche plus facilement une migraine. Encore une fois, la migraine, c'est une maladie cérébrale avec une prédisposition à déclencher de façon spontanée des maux de tête.
Est-ce que vous sentez, Bintou, est-ce que vous les sentez arriver, vos crises de migraine?
Oui, je les sens arriver.
Avec quoi comme symptômes? Qu'est-ce que vous sentez avant? Vous sentez comment?
Pour commencer, c'est mes tempes qui me font mal. Ça commence par les tempes jusqu'aux yeux. Parfois, j'ai la vision un peu floue, mais ça, juste quelques secondes.
D'accord, donc il y a ces signes avant-coureurs.
Oui, donc après cela, je peux dire, dans une heure de temps, je peux avoir ma migraine.
Et quand vous sentez ces signes, est-ce que vous prenez tout de suite le médicament?
Non.
Excusez-moi cette question, pourquoi vous ne prenez pas tout de suite le médicament à ce moment-là?
Au fait, je ne me suis pas habituée aux comprimés. Je ne me suis pas habituée à prendre des médicaments. C'est si ça me fatigue tellement, de telle sorte que ça m'empêche
quand vous souffrez.
De faire mes activités. D'accord. Voilà, que je souffre et que je prends du Doliprane 1000 grammes.
Docteur Vincent Roubaud, vous conseilleriez à Bintou, on va dire, d'attaquer plus tôt avec le médicament?
Exactement, c'est vraiment un conseil simple, à savoir, dès les premiers symptômes évocateurs de migraine, débuter le traitement, parce qu'il sera d'autant plus efficace, la crise sera d'autant plus courte et moins intense, et vous serez d'autant moins fatigué comme vous le décrivez.
Voilà Bintou, on vous souhaite une bonne journée à Conakry. On va partir Merci à vous, très bonne journée Bintou. On va partir pour Cotonou, pour le Bénin, avec Nicolas en ligne. Nicolas qui est avec nous, bonjour Nicolas.
Bonjour, merci.
On est à votre écoute, allez-y.
Alors, ça a commencé en 2007. Une semaine, deux, trois fois j'ai mal, ensuite cinq fois, et puis après c'est toute la semaine. Je me suis retrouvé au CHU de Poitiers où je connais un bon médecin qui m'a recommandé à quelqu'un. On m'a mis sous Vimijecte et on m'a dit de prendre des antidouleurs, hein, du paracétamol. Ça n'allait toujours pas. Je suis allé à la Fondation Rothschild et là-bas, on a décelé une sinusite que nous avons traitée. Ensuite, ça n'allait pas du tout. Je suis retourné à l'hôpital Bichat. Je vis au Bénin, hein. Je fais des allers-retours quand ça va pas. À Bichat, j'ai eu un très bon docteur qui m'a dit « Vous avez une migraine qu'il faut apprendre à gérer avec laquelle vous vivrez. » Ça s'appelle les algies vasculaires de la face. On a essayé un traitement et on m'a donné des élitriptans. Ça ne marchait pas. On m'a envoyé à la Riboisière où il y a une unité d'anti-migraine. Je leur ai expliqué mon cas. Ils m'ont dit, trouvez vos déclencheurs, gérez-les et ça ira. Et après, on a trouvé que je prenais trop de médicaments. Je prends de la codéine tous les jours, des élitriptans. Et je suis allé à l'hôpital Saint-Antoine en 2010 pour une désintoxication médicamenteuse. Pendant une semaine, pas de médicaments. J'avais très mal, même quand je m'étordais de douleur. C'était un peu de paracétamol. Et quand je suis sorti, j'ai commencé vraiment de l'automédication parce que j'avais toujours mal. Entre-temps, je vais en Afrique du Sud et on m'opère en ouvrant 6 endroits de la tête pour cautériser mes artères. Et c'est un médecin qui est sur Internet, très célèbre et tout, en Afrique du Sud. Donc on m'ouvre la tête à 6 endroits. Et là, c'était maintenant la douleur, plus la douleur des endroits ouverts.
Oui. Ce que vous nous décrivez est assez spectaculaire, hein, Nicolas. Oui. Là, ça devient... Très spectaculaire.
Alors j'ai des traces là de cautérisation sur la tête et de couture. Alors après on m'a parlé tout dernièrement d'un produit qu'on appelle Aimovig qui serait sorti aux États-Unis et qui vous donne un mois sans douleur. Je l'ai fait commander, il est arrivé. Une semaine après, j'avais mal à la tête. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'ai décidé de quitter mon travail. Je prends du Profenid. Je couple parfois quand c'est trop fort avec de la codéine. Il faut dire que je suis tous les jours à la codéine. De la menthe poivrée au temple parfois. Et je n'arrive pas à dormir. Le cardiologue m'a mis sous Rivotril plus Lexomil pour que je dorme. À l'heure où je vous parle, je suis dans le noir parce que j'ai mal ce matin déjà au réveil. J'ai pris du Migretil. J'attends que ça se calme pour que je puisse sortir, ou si ça ne se calmait pas, ben je ne sortirai pas de la journée.
Docteur Vincent Roubaud, on entend le désespoir de Nicolas qui a fait tout ce qui était, on va dire, sur le marché, au niveau médical, au niveau médicaments, qui reconnaît même sa dépendance aux médicaments. Donc ce n'est pas quelqu'un du tout qui est dans le déni. Il y va carrément, puisqu'il a même essayé de se désintoxiquer, donc il a été excessivement courageux. Mais là, on voit que rien ne fonctionne.
Oui, donc je suis très sensible à ce que vous racontez.
Parce que c'est un cri de désespoir. Hein,
oui, c'est ça. On sent la souffrance dans ce que vous racontez et puis le parcours médical un petit peu chaotique que vous avez eu. Je pense que déjà, le premier bon conseil, c'est d'éviter, et je sais que c'est facile pour moi de dire ça, mais de faire plusieurs centres hospitaliers différents, parce que ce qui est très important dans la prise en charge médicale, c'est le suivi du patient et puis d'essayer certains, déjà de mieux vous connaître, de mieux caractériser vos maux de tête, et ensuite d'essayer différents traitements et d'avoir une attitude qui est hiérarchisée mais surtout cohérente. Donc faire plusieurs centres médicaux, plusieurs médecins différents, et je trouve que c'est délétère en tout cas pour le traitement de vos maux de tête. Dans ce que vous racontez, on a du mal à retenir potentiellement la migraine, puisque encore une fois elle doit durer 3 jours au maximum. Si elle a duré toute une semaine, on passe dans des migraines, enfin dans des céphalées qui sont plus chroniques, et donc là il faut rechercher d'autres causes, notamment s'aider parfois d'imagerie cérébrale. Dans ce que vous décrivez, un des critères qui aurait pu pérenniser vos maux de tête, c'est la surconsommation de traitement, et on sait que c'est ce qu'on appelle l'abus médicamenteux, hein. Quand on prend une certaine dose de médicaments et certains types de médicaments, ça peut pérenniser les maux de tête. Donc effectivement, il y a nécessité parfois de faire des sevrages avec des traitements bien particuliers. Et encore une fois, le tout traitement que vous décrivez n'est pas l'essentiel en fait de la prise en charge, puisqu'on sait qu'il y a des techniques non médicamenteuses qui fonctionnent bien chez certains patients, des techniques de relaxation, de prise en charge parfois psychologique. Et concernant Lemovig, il est disponible également en France. C'est un nouveau traitement qui cible des molécules bien particulières, mais qui ne doit être prescrit que sur ordonnance médicale, parce que ça reste un traitement qui a des effets indésirables.
Donc attention aux commandes sur Internet.
Exactement, qui doit être pris dans de bonnes conditions et sur des céphalées qui sont définies comme étant des migraines, ce qui ne semble pas être votre cas à l'heure actuelle.
Donc, faire bien attention quand on va justement un peu faire son marché des médicaments, ça peut jouer contre nous, ça peut même être excessivement dangereux. On vous met régulièrement en garde contre ces façons d'agir et de se soigner. Bon courage, Nicolas, parce que là, franchement, on peut pas vous dire autre chose. Bon courage et merci pour cette question et ce témoignage très intéressant. Il nous reste peu de temps avec nos auditeurs. Moi, je le dis, on va refaire bientôt une émission sur la migraine parce que beaucoup de personnes sont restées en suspens et attendent des réponses. Donc, on refera ça très bientôt. On va donner la parole à Jacques qui a également quelque chose de très intéressant à nous dire. Il est au Kenya, à Nairobi. Bonjour, Jacques.
Bonjour, bonjour, docteur.
Bonjour. On vous écoute, allez-y.
Oui, cette maladie m'a commencé en 2012.
Mm-hmm.
Quand j'étais à l'école secondaire.
Mm-hmm.
Quand on retirait les écoles, la maladie s'arrêtait. Quand on commence encore l'année, la maladie revient encore.
Alors, vous aviez des migraines quand vous étiez en situation scolaire, quand vous étiez en apprentissage. Vous êtes, je le précise, Jacques, originaire de République démocratique du Congo. Et vous avez constaté quelque chose d'assez étonnant, c'est que quand vous avez déménagé, eh bien, vos migraines se sont envolées. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça?
Oui, pour le moment, la maladie, je n'en ai plus.
Mm-hmm.
Mais dans des années passées, lorsque j'en ai, j'avais essayé de prendre les médicaments, les antalgiques, les ibuprofène, les paracétamol, les aspirines, mais aussi quelques médicaments traditionnels que je buvais. Et les gens me disaient que quelquefois ça peut être les problèmes de froid, parce que chez nous ça fait froid.
Dans votre région d'origine, il fait plutôt froid et là encore, on a, docteur, ce fameux facteur climatique, docteur Roubaud.
Oui, tout à fait. Puis dans la situation bien particulière de Jacques, on peut avoir le facteur climatique qui peut déclencher la migraine. Et puis il y a aussi peut-être le déménagement avec un changement de rythme de vie, peut-être un stress qui est moins important ou qui peut aussi jouer sur la migraine et la faire parfois disparaître.
Alors on remercie beaucoup Jacques pour ce témoignage et on va tout de suite partir pour le Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Benjamin Tchaleux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue à l'hôpital général de Douala, au Cameroun. Beaucoup d'appels aujourd'hui à notre numéro à priorité santé. On le voit, c'est migraines fréquentes. Est-ce que chez vous aussi, docteur Tchaleux, ces migraines, c'est un motif fréquent de consultation dans votre service de neurologie?
Les migraines constituent environ 15 à 20% des consultations en neurologie. Effectivement, mais si on revoit d'autres services, beaucoup de malades passent d'abord par l'ORL ou par l'ophtalmologie et avant de revenir en médecine. Donc, ce nombre peut être un peu plus important que les 10 à 15%.
Ça veut dire que d'une certaine manière, docteur Tchaleux, pas mal de patients font pas forcément le rapprochement entre la migraine et votre spécialité, la neurologie. D'abord, ils pensent, oui, est-ce que j'ai un problème aux yeux, voire est-ce que j'ai un problème dans la sphère ORL, le nez, la bouche, la gorge.
Oui, effectivement. Donc, la plupart des patients passent généralement par ces consultations avant d'arriver en neurologie. Après avoir fait parfois des bilans en ORL, des radios, des scanners, et c'est en fin de compte qu'ils sont retournés en neurologie.
Y compris, docteur, après avoir essayé un certain nombre de traitements.
Généralement, l'automédication est de cardiaque dans ces palais, parce que ici, les gens pensent que tout le monde a mal à la tête. Mm-hmm. Donc, quand quelqu'un a une crise de migraine, il dit « j'ai mal à la tête comme tout le monde ». Donc, ils vont commencer par prendre du paracétamol, de l'éperagan codéiné, et c'est après plusieurs tentatives de traitement qu'ils s'orientent vers d'autres consultations. Parfois, ils vont me consulter chez les praticiens.
Oui, c'est ce qu'on a entendu. Il y avait un certain nombre de potions ou d'herbes qui étaient prises en décoction.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Docteur Benjamin Tchaleux, est-ce que vous avez identifié justement dans vos consultations les facteurs déclenchant les plus fréquents? On a entendu avec nos auditeurs, ils parlaient de certains aliments, facteurs climatiques, souvent la lumière, le bruit. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Le stress et les insomnies. Mmh. Actuellement, le stress doit faire à peu près 30% du motif de consultation actuellement au Cameroun, compte tenu des difficultés de la vie. La plupart des gens sont stressés. Et devant ces difficultés, ils sont toujours en train de déclencher des crises de migraine.
Et l'association, justement, de troubles de l'humeur, voire de dépression, à ces symptômes proches de la migraine, ou carrément diagnostic de migraine, c'est également quelque chose que vous constatez?
Effectivement. Il y a une forte corrélation entre la dépression et la migraine dans notre société.
Est-ce que vous constatez, alors tout à l'heure on a parlé du recours à la pharmacopée traditionnelle, au-delà de cela, est-ce que vous constatez un certain nombre d'idées reçues, d'idées fausses sur la migraine, docteur Benjamin Tchaleux, des personnes qui pensent par exemple qu'il va y avoir de la magie ou quelque chose d'un ressort un petit peu mystique? Qu'est-ce qu'on vous donne comme explication?
Dans notre contexte, c'est encore très ancré dans les populations. Mmh. Il y a toujours des phénomènes de cause à effet. Mmh. Il y a des gens qui vont vous dire si j'ai mal à la tête, c'est parce que je suis pas allé voir l'écran de mon père depuis plusieurs années. C'est pour ça qu'on m'a dit que c'est parce qu'il passe pas les tradis praticiens. Mmh. Et parmi les tradis praticiens, il y en a qui se passent pour des voyants et vous donnent des causes. Donc, il faut aller verser de l'huile au village sur la tête d'un parent qui est mort il y a 10 ans ou à 20 ans, parfois un parent que vous n'avez même jamais connu. Et on se pose la question parfois de savoir comment celui-là a pu vous faire avoir mal à la tête. Il y a beaucoup d'idées très préconçues et c'est ce qui fait le retard dans le diagnostic. Et c'est qu'en fin de compte, beaucoup de malades arrivent très tardivement à l'hôpital parfois pour plutôt des céphalées d'abus médicamenteux.
Mmh. Et justement sur l'usage, le mésusage de ces médicaments antidouleurs, des antalgiques, et y compris des lieux où on se procure ces médicaments, hein, quand ce sont des médicaments de la rue, des médicaments du trottoir, docteur Benjamin Tchaleux, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent pour mieux se soigner?
Les auditeurs ou nous continuons à le dire, à le faire dans les formations, les migraines sont une maladie neurologique. Mmh. Il n'y a pas de migraine ophtalmique comme très très répandue le plus souvent. S'il y a des manifestations oculaires pendant une crise ou bien avant une crise, les manifestations oculaires plutôt sont de l'aura qui annonce la crise. Donc, il n'y a pas de migraine ophtalmique. Si des gens ont mal à la tête, si c'est de façon récurrente, ils doivent consulter au moins en médecine générale.
Oui.
Et sinon, s'ils peuvent voir un neurologue, ce serait encore mieux, parce que la migraine est une maladie bien connue. Elle est chronique, effectivement, et il y a des traitements appropriés pour les crises. Et il y a des traitements d'accompagnement pour réduire la fréquence ou l'intensité des crises.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, docteur Benjamin Tchaleux. Je rappelle que vous êtes neurologue à l'hôpital général de Douala.
RFI à Douala, 97.8 FM.
La migraine, aujourd'hui dans Priorité Santé, dernière partie de notre échange, diagnostic, prise en charge. Toujours avec nous le docteur Vincent Roubaud. On a parlé de ces aliments associés aux crises de migraine. Et puis, peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé, docteur Roubaud, c'est la stigmatisation. Maladie, on l'a compris hein, avec certains de nos auditeurs, c'est grave. C'est vraiment pas de la simulation. Et pourtant, mauvaise réputation, encore associée à de fausses plaintes, voire à certains prétextes.
Oui, c'est d'où l'importance d'une émission comme la vôtre, c'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance de la maladie dans la population générale pour lequel on a une part de responsabilité et pour lequel on doit effectivement mieux informer la population. C'est une maladie qui ne se voit pas, c'est-à-dire que la douleur ne peut pas être ressentie par la personne d'en face. C'est une maladie invisible parce que lorsque l'on fait des imageries, on sait qu'elles sont le plus souvent normales, IRM ou scanner cérébral. C'est une maladie qui se répète et qui peut effectivement durer longtemps et avoir un impact important sur sa vie professionnelle ou sa vie personnelle. On le dit pas assez, mais c'est aussi, même si individuellement c'est une maladie qui fait souffrir, c'est une maladie aussi qui a un impact économique important. Mmh. Puisque ça touche une grande partie de la population, on a dit environ 15% de la population, ça coûte cher en traitement, ça coûte cher en retentissement, en arrêt de travail, mm-hmm. alors qu'il y a des traitements qui sont efficaces.
Et que la recherche travaille dessus, hein. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveautés, mm-hmm. D'ailleurs dans certaines parties du monde, un accès encore limité à ces traitements novateurs, mais il y a vraiment de quoi espérer de ce côté-là ?
Ah oui, tout à fait. C'est vraiment un domaine, du fait que ça représente une large partie de la population, je pense que ça intéresse beaucoup la recherche et les laboratoires. Quoi qu'il en soit, il y a de nouvelles molécules qui arrivent, y compris en France. L'auditeur tout à l'heure en parlait, Hemovig, mais c'est une marque. Donc c'est une molécule qui est en fait un anticorps qui va cibler un récepteur ou une molécule qui va entraîner l'inflammation et la dilatation des vaisseaux au niveau cérébral responsable de la douleur, ce qu'on appelle l'anti-CGRP, mais peu importe. Donc ça, ce sont des traitements qui vont pouvoir être mis en traitement de fond avec des injections sous-cutanées qu'on pourra se faire soi-même ou à l'aide de quelqu'un tous les mois, voire tous les 3 mois.
Et pour se soulager sans cette grosse cavalerie, même si elle peut être indispensable en termes d'hygiène de vie, voire en termes de soins parallèles. Il nous reste environ 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut conseiller ? Qu'est-ce qu'on doit changer pour aller mieux ?
Alors, on doit essayer de changer le moins de choses. C'est-à-dire qu'on doit essayer de respecter les rythmes de sommeil, de telle sorte que souvent, on fait état de migraines qui surviennent plus facilement le week-end simplement parce qu'on change son rythme de sommeil, mais aussi sa consommation de café.
Donc, être régulier.
Essayer d'être régulier dans les rythmes de sommeil. Faire du sport, c'est toujours bien parce que ça diminue la charge de stress, ça permet de vider un petit peu la tête et on sait que c'est important comme facteur déclenchant de la migraine. Éviter de boire trop d'alcool et de consommer trop de tabac, mais ça, je pense que
c'est en général pour toutes règles de santé.
Voilà. Éviter de consommer trop de traitements.
Trop de traitements, trouver le bon. Et puis quand on utilise du paracétamol parce que c'est vendu sans ordonnance, faire très attention sur dosage.
Exactement, pas plus de 8 prises par mois.
Pas plus de 8 prises par mois et au rythme quotidien, bien espacé. Les prises, c'est très important. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, hein, docteur Vincent Roubaud. Je l'ai dit, on refera bientôt une émission sur la migraine parce que beaucoup d'auditeurs sont restés en suspens. On n'a pas eu le temps de les appeler et on répondra à leurs questions. Je rappelle que vous êtes neurologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. C'est tout ça, Maqué, Ophélie, La Seine, Didier Bleu, Juliette Bro, Grégorio Tenorio. Demain, nous reviendrons sur les conclusions d'une étude de l'INSERM menée sur les traumatismes associés au terrorisme, réseaux cérébraux, troubles de stress post-traumatique. À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Bank Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Bank vous accompagne. Sounou Bank, avec vous, à chaque étape.